Vous écoutez
RMC.
Il est 8h et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Bon réveil.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. On va vous donner dans le journal les toutes dernières informations sur ce feu très impressionnant qui continue de progresser ce matin dans le Var. Les flammes ont parcouru plus de 2500 hectares depuis hier après-midi. C'est énorme, c'est le secteur de Cotignac qui brûle et les Canadiens reprennent leur rotation là au moment où on se parle. Vous aurez aussi les toutes dernières informations dans l'affaire Jubilard en direct de Toulouse. Cédric Jubilard qui dit avoir étranglé sa femme il y a près de 6 ans. Et sur la démission attendue dans la matinée de la ministre de la Transition écologique après l'adoption définitive de la loi d'urgence agricole.
C'est la région du Haut-Var qui est en proie aux flammes depuis hier après-midi.
Avec ce violent incendie qui a pris sur la commune de Pontevès avant de se propager à grande vitesse, insiste la préfecture, aux communes voisines de Cotignac, Corrins, Montfort-sur-Argent aussi. Le dernier bilan des pompiers fait état ce matin de 2500 hectares parcourus au moins par les flammes. Anna Jojard, vous êtes sur place dans le secteur ce matin pour RMC. Quelles sont les toutes dernières informations?
Eh bien, la nuit a été très compliquée. Jusqu'à 1200 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour ce feu qui a progressé très vite depuis hier après-midi. Il a parcouru plus de 800 hectares dans la nuit. Ce matin, le feu est contenu, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus beaucoup, mais il n'est toujours pas fixé. Le travail des pompiers va donc être très important aujourd'hui. C'est ce qu'explique le commandant des pompiers du Var, Éric Groin.
Le travail d'aujourd'hui va être crucial parce que, je vous le rappelle, demain, nous avons du vent. On en aura cet après-midi, mais demain, il est beaucoup plus fort. Je ne souhaite pas avoir plusieurs feux en attente dans le département, si on a encore d'autres risques ailleurs. Donc il faut absolument qu'on travaille beaucoup sur ce feu-là pour qu'on puisse être tous disponibles pour, je l'espère, une journée calme, mais rien ne le présage.
Les moyens aériens sont en train de reprendre. J'ai vu passer un hélicoptère plusieurs fois. Il y aura aussi 2 Canadair et 2 avions d'âge qui seront déployés pour lutter contre l'incendie qui est désormais près de Cotignac.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle d'un feu qui a progressé à vue d'œil durant la nuit. On parlait de quelques hectares brûlés hier après-midi au moment où on l'a appris. Et on est donc ce matin à plus de 2500 hectares parcourus par les flammes parmi les 400 personnes qui ont été évacuées dans le secteur depuis hier après-midi. Je vous propose d'écouter Rudy, c'est un touriste belge qui avait loué une maison à Montfort-sur-Argent.
On a dû quitter au plus vite parce que on avait les retombées des cendres, on avait des braises et la fumée qui devenait de plus en plus chaude. Donc c'était très très vite en fait. Franchement, on sentait vraiment la chaleur. Les fumées devenaient vraiment chaudes quoi. Donc ça a pris vraiment une proportion très rapide quoi. Ça a été très 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 vite. La gendarmerie, la police municipale, tout le monde est arrivé pour demander de quitter au plus vite parce que ça devenait vraiment incontrôlable quoi.
Voilà, les pompiers mobilisés donc dans le Var et endeuillés. En Gironde, cette fois, à nouveau, 2 sapeurs professionnels qui sont morts hier après-midi en intervenant sur un incendie près de l'aéroport de Mérignac. En fait, leur camion-citerne a été encerclé par des flammes allant jusqu'à 30 mètres de haut. C'est ce qu'explique le directeur des pompiers dans ce département de Gironde.
Ouais, les pompiers qui payent un lourd tribut cet été. On y reviendra après le journal avec Eric Brocardi, le porte-parole des sapeurs-pompiers de France. D'abord, l'affaire Jubilard à 8h04, parce qu'il y a du nouveau.
Oui, depuis qu'on sait ce qu'a dit Cédric Jubilard à la justice lors d'une audition, c'était la semaine dernière, dans la foulée de ses aveux sur la disparition de son épouse il y a près de 6 ans dans le Tarn. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes en direct ce matin de la cour d'appel de Toulouse où Cédric Jubilard a donc dit comment il avait tué son épouse.
Oui, c'est ça, Quentin. Exactement, Cédric Jubilard raconte à la magistrate ici à Toulouse que c'est une nouvelle dispute, la énième dispute sur fond de divorce. Le ton monte très rapidement, explique Cédric Jubilard. Delphine lui dit « Tu n'es qu'un toxico de merde, j'ai trouvé un homme qui vaut beaucoup mieux que toi ». Cédric Jubilard explique qu'à partir de ce moment-là, eh bien, ça l'a fait complètement vriller, ça l'a fait dégoupiller. J'ai serré son cou très fort, j'ai serré et j'ai crié « Tais-toi, tais-toi, tais-toi », je l'ai dit 20, 30, 50 fois. Et puis ensuite, eh bien, je l'ai prise sur mon épaule, je l'ai mise dans le coffre de la voiture et je suis allé l'enterrer à proximité de ce champ. Je me souvenais notamment de ce monticule de compost. Voilà pour la version officielle livrée ici même à Toulouse par Cédric Jubilard devant la magistrate. Bien sûr, une seule question d'actualité qui brûle sur toutes les lèvres. Y a-t-il eu préméditation? A-t-il prémédité son geste? Les magistrats ont quelques mois pour réfléchir et répondre à cette question puisque le procès en appel a été reporté au premier semestre 2027.
Jean Wilfried Forquès en direct de Toulouse ce matin pour RMC. C'est une atteinte grave à la République. Voilà ce que dit le ministre de la Justice Gérald Darmanin à propos des menaces qui pèsent sur le maire d'Alès dans le Gard. On en parle ce matin sur RMC. Pourquoi ? Parce qu'il a été exfiltré de chez lui par le RAID. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Car sous la menace des narcotrafiquants de la DZ Mafia, le nouveau parquet national anticriminalité organisé s'est saisi de l'enquête. Et alors dans ce contexte, le Premier ministre Sébastien Lecornu dresse ce matin dans le magazine Paris Match un tout premier bilan des tests anti-drogue qu'il avait promis le mois dernier pour les ministres et les hauts fonctionnaires. Il annonce que certains membres de cabinet ministériel ont été écartés après des tests qui se sont révélés être positifs. Il ne dit pas combien, ni combien de ministres d'ailleurs ont été dépistés, mais il promet que ces tests vont continuer.
Et ce matin, c'est la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, qui va claquer la porte.
Dans la foulée de l'adoption définitive, hier, avec l'ultime vote au Sénat du fameux projet de loi d'urgence agricole qui réintroduit deux pesticides interdits jusque-là, Monique Barbu y était opposée. Et c'est donc pour ça qu'elle a prévu de présenter sa démission avant le Conseil des ministres qui aura lieu dans la matinée. Lucas Laubert avec Romain Cluzel, vous en savez un petit peu plus sur ce choix de la ministre.
Sa décision est mûrement réfléchie. L'autorisation de l'acétamipride, même sous condition, était une ligne rouge. Alors face à son entourage hier soir, Monique Barbu tranche « Je n'ai pas d'autre option que de remettre ma démission ». C'est ce qu'elle va faire ce matin à l'Élysée. Pourtant, elle n'exclut pas totalement que le président réussisse à la convaincre de rester en poste. « Si ma démission est refusée, ça dépend de ce qui est dit et comment c'est dit », explique-t-elle. Quoi qu'il en soit, cette annonce est un très mauvais signal, estime une députée macroniste proche de Monique Barbu. Un selon elle, qui désespère de voir la 8e ministre de l'écologie faire ses valises depuis 2017. Ce départ probable n'est pas une surprise, estiment plusieurs membres du Bloc central. Pour eux, Monique Barbu paye son manque politique au sein du gouvernement. Interrogé par Paris Match aujourd'hui, le Premier ministre Sébastien Lecornu assure que Monique Barbu a sa confiance, mais il estime que les membres du gouvernement doivent trouver le point d'équilibre entre les convictions personnelles qu'ils portent et les compromis qu'ils doivent trouver.
Et alors dans la dernière ligne droite, avant les vacances politiques, députés et sénateurs ont définitivement validé 6 textes hier, certains emblématiques d'ailleurs, on en a beaucoup parlé là ces derniers mois sur RMC, comme celui sur le sport professionnel, encadrant la répartition des droits TV notamment, celui sur la sécurité du quotidien, c'est la fameuse loi Riposte qui durcit les sanctions en cas de relais urbain ou de free party, ou celui sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui seront donc interdits au moins de 15 ans à partir du mois de septembre. C'est une première en Europe, chez nous, donc en France. Bérangère Bocquillon, ça mérite quand même de s'y pencher un instant avec vous, chef du service société RMC. Qu'est-ce qui va changer donc sur les réseaux en septembre ?
Si vous vous inscrivez pour la première fois sur un réseau social, vous allez devoir prouver que vous avez plus de 15 ans. Pour ça, le réseau social vous proposera de passer par un tiers de confiance qui pourra par exemple être France Connect. Mais si vous êtes déjà inscrit, le réseau social aura jusqu'au 1er janvier pour vérifier votre âge et supprimera votre compte si vous avez moins de 15 ans. Le système est prêt et c'est très sécurisé, assure-t-on au ministère du Numérique. Les plateformes ne sauront ni votre âge ni votre nom. Elles sauront simplement que vous avez plus ou moins de 15 ans.
Alors ce sont tous les réseaux qui sont concernés, TikTok, Snapchat notamment. Bérangère, qu'est-ce qui se passera si le système est contourné ?
Si ce sont des moins de 15 ans qui trichent, pas de sanctions prévues, ça existera forcément, déplore-t-on au ministère du Numérique. Des mineurs réussissent bien à s'acheter de l'alcool malgré l'interdiction. Mais si ce sont les réseaux sociaux qui ne respectent pas leurs obligations, la Commission européenne pourra les sanctionner par de fortes amendes, jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires.
Et alors sur le Tour de France, on assiste à une bataille passionnante pour le podium entre deux jeunes de 19 et 22 ans. Ça semble jouer pour les deux. De première place, le maillot jaune Tadej Pogacar qui a l'air intouchable, le belge Remco Evenepoel qui a conforté sa deuxième place en remportant hier le contre-la-montre au bord du lac Léman. Et donc derrière, on a cette bataille entre notre Français, Paul Sexas, qui a repris un petit peu de temps hier au Mexicain Isaac Del Toro, Romain Asselin.
Oui, Paul Sexas n'est plus qu'à 20 secondes du podium après sa solide quatrième place sur le contre-la-montre.
Je me suis battu toute la journée et chaque jour nous rapproche un peu plus de Paris, donc 5 étapes et 5 jours pour se battre. Donc je suis prêt plus que jamais à me battre.
Un très bon signal pour son directeur sportif, Julien Jourdi.
Ce début de troisième semaine commence parfaitement bien pour Paul, c'est ce qu'on avait imaginé. On sait que les difficultés vont monter crescendo jusqu'à samedi. L'étape honnêtement, samedi elle est monstrueuse, donc tout peut se passer. Il y a vraiment une très belle bataille à livrer.
Face à un Isaac Del Toro qui ne désarme pas, le Mexicain a terminé terminé cinquième du chrono.
On essaie toujours d'être dans la position de celui qui reprend du temps aux autres, mais en me refaisant le film du chrono, je peux être satisfait de ma performance.
Dans son équipe UAE, il n'y a pas que le maillot jaune de Pogacar qui compte. Le directeur sportif Machin Fernandez suit de très près cette lutte pour le podium et le maillot blanc entre Del Toro et Sexas.
C'est incroyable que ces deux jeunes se battent pour le podium. Incroyable niveau, incroyable coureur, incroyable attitude, incroyable caractère. Bravo à eux, ils ont l'esprit de la gagne.
Isaac Del Toro a déjà remporté une étape sur ce tour. Paul Sexas devra peut-être limiter pour le dépasser au classement.
Cette 17e étape aujourd'hui qui fera 174 km entre Chambéry et Voiron en passant par les massifs des Bauges et de la Chartreuse, qui repartira d'ailleurs cette étape sans l'Allemand Florian Lipowitz, victime d'une chute hier sur le contre-la-montre. Ça fait deux abandons en deux étapes sur des chutes dans des virages. Étape du jour à suivre évidemment sur RMC, l'intégral tour tout l'après-midi sur RMC. 8h11, beaucoup de messages, de réactions ce matin. Vous les parents, les grands-parents peut-être, sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, Victor.
Et on a d'abord Lilou qui nous dit: je trouve ça triste qu'en France on soit obligé de créer une loi pour interdire les jeunes de moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Le problème ne se poserait pas si les parents faisaient leur travail. Elle s'inclut, hein. C'est à nous, parents, de jouer notre rôle d'éducateur. Vous êtes nombreux aussi à proposer vos solutions. On a par exemple Alicia qui nous dit: c'est une question de temps. Les technologies vont s'adapter. Pareil pour Céline qui nous dit: j'aimerais que ce soit les fournisseurs d'accès à Internet qui puissent dans les téléphones directement inclure la possibilité ou non d'aller sur les réseaux sociaux. Et puis Thierry nous dit: c'est interdit de dépasser 130 sur l'autoroute et pourtant les parents dépassent, nous aussi il faut qu'on donne l'exemple.
Ouais, donc est-ce que ça va être contourné, c'est aussi toute la question. Et est-ce que ça suffit? Notre invité tout à l'heure nous disait: sans éducation, interdire ça ne sert à rien. On en débat ensemble, on vous attend 32-16 si ça vous fait réagir. 06-12 424-424 pour nous écrire sur WhatsApp. 8h12
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, l'économie avec Manu Le Chypre et déjà les pistes du budget 2027 révélées par Sébastien Lecornu, du Premier ministre, dans le magazine Paris Match. Il sera notamment question de revoir le remboursement de certains médicaments. Vous allez voir tous les détails avec Manu Le Chypre. Et puis un été en enfer pour les pompiers. Ça brûle toujours dans le Var ce matin. Plus de 2500 hectares partis en cendres et plusieurs communes évacuées. En Gironde, ce sont deux pompiers qui ont perdu la vie. Les pompiers qui payent un lourd tribut. Cet été, on en parle avec le porte-parole des sapeurs-pompiers de France, Éric Brocardi. C'est dans quelques secondes sur RMC. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
8h16, vous êtes bien sur RMC, RMC Story. Ils étaient pompiers professionnels en poste au centre de secours de Saint-Médard-en-Jalles. C'est tout près de Bordeaux. Deux soldats du feu sont morts hier près de l'aéroport de Mérignac. Leur camion-citerne piégé par des flammes hautes de 20 à 30 mètres. Le ministre de l'Intérieur sera sur place aujourd'hui. Nous sommes avec le lieutenant-colonel Éric Brocardi. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des pompiers de France. Voici donc la réalité que vivent vos collègues. Trois morts déjà dans les rangs des pompiers depuis le début de l'été.
Ouais, c'est bon.
Lieutenant-colonel Brocardi.
Bonjour. Oui.
Bonjour à vous. Je disais que les pompiers payent un très lourd tribut cet été. Trois morts déjà dans vos rangs depuis le début de l'été.
Oui, un trop lourd tribut, comme vous le dites. C'est déjà trois de trop. La facture est déjà trop lourde. Nous pensons évidemment aux familles. Nous pensons aux sapeurs-pompiers de Saint-Médard, de Savoie, qui sont toujours dans le deuil. Donc le sujet aujourd'hui, c'est malgré tout ce qu'il se passe, malgré les conséquences très dramatiques de ces incendies, nous pesons un lourd fardeau. Et ce fardeau-là, nous continuons à l'avoir tout en poursuivant la lutte contre les incendies. Et vous voyez, dans le Var, ça ne s'arrête pas. Vous voyez qu'effectivement aussi, en Gironde, le feu a été extrêmement virulent. On va dire poussant jusqu'à l'engagement total et à l'abnégation totale des sapeurs-pompiers, au point que nous en perdons deux encore aujourd'hui, malheureusement.
Est-ce que vous avez des éléments sur ces deux pompiers? Est-ce qu'on connaît leur âge, leur niveau d'expérience?
Pour l'instant, c'est le niveau d'expérience n'est pas à remettre en question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aussi il y a une part d'intimité à préserver vis-à-vis des familles. Il y a déjà quelques éléments qui circulent
sur les réseaux sociaux évidemment, mais de mon point de vue et de mon statut, je préfère pour l'instant laisser toujours la voie officielle du service départemental d'incendie et de secours de Gironde de faire le nécessaire pour vous donner les renseignements. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le courage des sapeurs-pompiers continue et de mise, que les sapeurs-pompiers de France et l'œuvre des pupilles seront aux côtés des familles de nos deux sapeurs-pompiers perdus dramatiquement dans cet incendie. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de continuer malgré tout à être sur le terrain et de pouvoir poursuivre. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est la vigilance de l'ensemble des concitoyens pour éviter de nouveaux feux, de nouveaux départs, pouvant mettre en difficulté les sapeurs-pompiers, voire mettre en péril leur vie.
Lieutenant-colonel, est-ce que vous pouvez essayer de vous rapprocher peut-être de votre téléphone? On vous entend un tout petit peu loin. Juste peut-être un mot des circonstances dans lesquelles ces deux pompiers ont péri. On est en Gironde, tout près de l'aéroport de Mérignac. On n'est pas en pleine forêt. En réalité, on est près d'une zone avec des entrepôts, des parkings. C'était une zone à risque maximal.
C'était une zone à risque maximal. Effectivement, comme vous le voyez, Mérignac est connu pour son aéroport avec des enjeux infrastructurels, avec une pression opérationnelle liée justement à la circulation aéronautique, avec un modèle périurbain qui se veut aujourd'hui très contraignant, avec une interface entre la forêt et le monde industriel qui est extrêmement proche. Donc encore aujourd'hui, c'est un sujet que l'on porte, la Fédération Nationale, c'est de continuer à essayer d'améliorer les conditions, on va dire, d'aménagement des territoires pour éviter que demain, nous soyons soumis à la fois à une pression infrastructurelle et en même temps une pression liée à notre activité opérationnelle qui est de sauver, secourir et protéger à la fois les habitants, les biens et l'environnement.
C'est finalement pas le plus gros incendie, en tout cas pas le plus spectaculaire, à part qu'il était tout proche de l'aéroport, mais il a été maîtrisé assez vite. On voit que dans le Var, les pompiers ont là-bas combattu toute la nuit, mais ça veut dire aussi que le moindre petit feu de broussailles peut prendre de l'ampleur très vite et que les pompiers prennent des risques dans tous les feux aujourd'hui.
C'est très très juste ce que vous dites. Vous voyez bien que ça a l'air d'un feu assez anodin. Vous voyez bien que ça a l'air d'être un feu assez classique, comme on a l'habitude de couleur. Pourtant, ils sont extrêmement piégeux. Et vous l'avez bien signalé, et vous le voyez au travers des bulletins météorologiques, les niveaux de sécheresse sont assez importants. La strate végétative, c'est-à-dire toute la surface au-dessus du sol, est extrêmement asséchée, ce qui produit véritablement des conditions extrêmes en termes de propagation du sinistre et crée des encerclements potentiels pour les sapeurs-pompiers dès lors que les flammes commencent à s'embraser avec une végétation qui est extrêmement dense. Donc aujourd'hui, ce sont les conséquences, on va dire, des inversions, des changements de température, des changements de saison, des changements, on va dire, très virulents de climat qui font qu'aujourd'hui, on est sur des phases où la lutte contre les feux de forêt a changé véritablement notre manière dont on doit pouvoir les approcher, de continuer à progresser dans notre stratégie, bien que la stratégie française est reconnue mondialement, bien que nous ayons un socle aujourd'hui qui est solide, qui est celui promu par l'entente Valabre, qui est une école des feux de forêt au sud de la France, qui permet d'avoir une stratégie commune qui s'avère toujours efficace, mais sur lesquels nous devons continuer à progresser.
Merci beaucoup, merci lieutenant-colonel Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Merci d'être avec nous et un hommage sera rendu aujourd'hui à ces deux soldats du feu qui ont péri hier en Gironde. Il est 8h21, c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Lechypre, on parle du budget. Le budget 2027, oui, c'est déjà à l'ordre du jour avec le Premier ministre Sébastien Lecornu qui dévoile des pistes d'économie. C'est ce matin dans Paris Match.
Oui, la France est surendettée, a trop de déficits, ce qui la rend vulnérable aux chocs internationaux. Vous l'avez compris, le redressement des comptes publics est une priorité absolue, nous dit le Premier ministre. Alors, ça ne se fera pas, dit-il, par des augmentations d'impôts, ni par la création de nouveaux impôts. Alors attention, il y aura quand même quelques petites subtilités. On n'exclut pas, par exemple, des coups de rabot sur des niches fiscales jugées un peu inutiles. Donc si vous supprimez des niches fiscales, par définition, vous augmentez les impôts. On pense aux 10% d'abattement des retraités, par exemple. Et puis, il est peu probable que les contributions censées être exceptionnelles, je vous le rappelle, qui étaient demandées aux revenus et aux entreprises, disparaissent. Donc, si on n'augmente pas les impôts, ça veut dire qu'il va falloir réduire massivement les dépenses. Et là, on est rassuré, pas question de toucher aux dépenses d'investissement, la défense, la recherche, l'éducation, le nucléaire, l'énergie, le spatial, l'intelligence artificielle ou encore le quantique. Mais vous allez voir que ça laisse quand même beaucoup de marge puisque les dépenses d'avenir, sur un budget de 1 800 milliards de dépenses publiques environ, ne représente que 8%.
Alors, où est-ce qu'on taille dans les dépenses? Est-ce qu'il y a déjà des pistes de réduction de dépenses?
Alors, on taille dans les dépenses de fonctionnement, mais alors là, on nous promet effectivement une révolution dans la manière de dépenser, des dépenses plus efficaces, mais les pistes qu'on a sont assez maigres. Il y a un intéressant bonus-malus budgétaire entre les ministères pour les inciter à investir dans le numérique et l'intelligence artificielle qui sont censés faire gagner en productivité. Et puis, il y a aussi des réductions de dépenses sociales en perspective. Sont privilégiés notamment le moindre remboursement des médicaments anciens, la lutte contre la surconsommation de soins, mais on est encore loin du compte. Et pour les grandes masses, eh bien, Sébastien Lecornu ne reprend aucune des propositions formulées dans le rapport qui vient d'être publié sur les finances publiques, rapport commandé à 4 économistes de renom qui, eux, proposait la désindexation pardon des prestations sociales, voire une allée blanche, c'est-à-dire on gèle toute l'augmentation de toutes les prestations sociales. On peut pas dire que cette interview prépare vraiment les Français aux efforts.
Ouais, le Premier ministre veut un budget pour 2027. Oui. Encore faudra-t-il trouver une majorité pour le voter ou à minima pour ne pas le censurer. Ça, c'est une autre histoire.
Et il dit, s'il n'y a pas de budget 2027, eh bien, la première année d'exercice du prochain président, prévient-il, nous dit, eh ben, ce sera déjà une année de perdu quasiment.
On termine d'un mot sur les chiffres de l'énergie, comme tous les jours.
Alors, petit répit pour le gazole et le samplon. 2,13 pour le gazole, 2,02 pour le samplon. C'est à peu près les mêmes prix qu'hier, mais c'est quand même 11 centimes de hausse pour le gazole, 6 centimes pour le samplon depuis une semaine. Sur le pétrole, ça se tend un peu plus. On est à 92 $ le baril, ce qui reste en dessous des niveaux de mars et mai, mais c'est quand même une forte augmentation en quelques jours. Et puis surtout, le sujet qu'il faut surveiller de très très près, mesdames et messieurs, c'est le gaz. On approche 60 € le mégawattheure. Le pic pendant cette crise, c'était 62 €. Et on était à 30 avant la crise. Merci. Donc attention, attention au prix du gaz.
Merci Emmanuel. Le Chypre, allez, avant le journal de 8h30, on se détend un peu. C'est le meilleur d'Arnaud Demanche.
Raphaël Glucksmann dévoile ses propositions pour 2027. Arnaud, dans un livre programme. Le titre, Nous avons encore envie.
Oui, nous avons encore envie. On dirait un message de relance d'un Versaillais sur Tinder. Après 4 jours sans réponse, Maud. Nous avons encore envie. Le livre, il fait 200 pages, mais on peut le synthétiser en une phrase. Et si on faisait une gauche de droite, mais sympa. Alors, est-ce qu'il va y aller à la présidentielle, Glucksmann? J'ai entendu, il se donne 3 mois. La semaine dernière, il a d'ailleurs fait tous les gros plateaux, le 20h de TF1, quotidien, machin, patin, couffin, pour dire juste, écoutez, monsieur Boulot, pour la présidentielle, je sais pas, faut voir, on verra dans 3 mois. Quand t'as le 20h de TF1, c'est le moment de l'annoncer ta candidature. Enfin, c'est pas le genre d'endroit où tu vas tous les 15 jours. Enfin, je sais pas, Alain Bauer dans le face-à-face.
Oh, merci.
Pourquoi il va là-bas pour dire qu'il hésite? Ça fait quand même pas envie.
Non.
Tu veux rencontrer les candidats à la présidentielle les moins chauds de ta région? Envoie Glucksmann au 8-12-2 et découvre une vague envie de faire des trucs. Bon, peut-être avec des gens. Glucksmann au 8-12-12 pour des moments bof avec des gens que bon. Il est pas motivé, quoi. En fait, Glucksmann, tu sens que tu le fais un peu chier à être moins intelligent que lui. Voyez, est-ce qu'il va s'abaisser à nous gouverner? C'est pas dit. Et alors, attendez, tiens, j'ai une blague de feu. Alors, accrochez-vous.
Une blague de feu.
Il annonce
la blague de feu.
Cette indécision de Glucksmann, Léa, vous verriez dans quel état ça la met. Allez.
Oh,
champion d'Europe.
Arnaud Demanche à retrouver en podcast quand vous voulez sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Dans un instant, la météo. Il va encore faire chaud dans le sud et on surveille évidemment les incendies. Ce sera la une du journal de 8h30. Cet incendie dans le Var qui a ravagé 2500 hectares mais qui est désormais contenu. Et puis c'est une autre des conséquences de la canicule à répétition et de la sécheresse que nous vivons. Les maisons qui fissurent, une maison sur deux est désormais concernée en France. Alors comment prévenir le risque? Comment identifier si votre maison est à risque? On sera avec un expert pour vous éclairer. Et vous pouvez venir témoigner au 3216 ou sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. À tout de suite. Il est 8h30.
RMC, Apolline Matin.
Un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Plus de 2500 hectares parcourus par les flammes en moins de 24 heures dans le secteur de Cotignac, dans le Var. Un incendie d'une violence exceptionnelle qui est ce matin contenu. Après la multiplication des sécheresses, de plus en plus de maisons menacées par les mouvements du sol et des fissures importantes. Le doute plane-t-il de nouveau sur les performances du Tour de France ? Les derniers contrôles antidopage interrogent le peloton.
Le Var brûle encore, mais le feu est désormais contenu.
Plus de 2500 hectares ont brûlé depuis hier et menacent de nombreuses communes, Cotignac, Corrence, d'importants moyens mobilisés, 1200 pompiers épaulés de Canadair. État des lieux ce matin du directeur des pompiers dans le Var, Éric Groin.
La nuit ne fut pas calme puisque le feu a progressé encore toute la nuit. C'était compliqué, ça a été compliqué pour les gens au sol. Il est pour l'instant contenu dans son enveloppe, qu'il progresse plus beaucoup. Néanmoins, nous avons encore de nombreux points chauds, de nombreuses flammes encore dans certains endroits, en espérant que les températures de cet après-midi ne nous fassent pas repartir trop de reprises. C'est pour ça qu'on travaille bien ce matin. Je l'espère une journée calme, mais rien ne le présage.
2300 foyers, toujours privés d'électricité ce matin. 400 habitants ont dû être évacués ces dernières heures, ont dormi dans des salles des fêtes, notamment à Carcès. L'angoisse pour ces habitants qui ont vu les flammes s'approcher de leur maison, Célestin Bourgien.
En quelques minutes, la situation se complique autour de la maison de Nicole. Elle habite à Sillan-la-Cascade, au milieu d'un bois.
Quand je suis allée au bout de mon terrain, j'ai vu que la fumée était vraiment très très proche.
Elle reçoit alors un message de la préfecture sur son téléphone. Il faut évacuer au plus vite.
L'instinct de survie nous envahit et on se dit, bon ben, on s'en va. Je suis partie en pleurant parce que ben, j'ai mes poules là-bas, donc j'ai tout ouvert, en espérant qu'elles puissent s'échapper. Je ventre serré, je reste impuissante. On ne sait pas si la maison a volé.
Tout juste le temps d'arroser les murs de sa maison avant d'être accueillie chez des amis. Dans le village voisin de Cotignac, les Canadairs passent au-dessus de la tête de Philippe. Les flammes se rapprochent de sa maison où il est alors confiné.
Je suis ému parce que quand vous voyez cette fumée en haut des collines qui monte, qui arrive en haut de votre maison, puis se dire comment on va retrouver ce bastion qui est tellement magnifique, je n'ose même pas imaginer quoi. C'est terrible pour nous.
Certaines habitations ont été détruites. Le maire de Cotignac, Jean-Pierre Véran, se sent impuissant.
Je ne sais pas comment on va s'en sortir parce que les pompiers, au niveau des accessibilités, c'est dur et on croise des doigts pour que le vent ne souffle pas trop pour que ça baisse.
Un camping et un monastère ont également été évacués dans ce village.
Et deux maisons ont brûlé à Pontevès et plus d'une centaine sauvées. Les pompiers endeuillés en Gironde, deux sapeurs, ont perdu la vie hier sur un incendie près de l'aéroport de Mérignac. Ils se trouvaient à bord d'un camion-citerne piégé par les flammes.
La sécheresse qui met les habitations à rude épreuve.
Des maisons qui se fissurent, des murs qui bougent. En France, près d'un logement sur deux exposé au retrait et gonflement des argiles. Un phénomène accentué par les fortes chaleurs et les sécheresses. Direction la Sarthe, où Rachel Sadonine a rencontré une habitante touchée par ces dégâts.
Des centaines de fissures lacèrent les murs de la maison de Solveig, visibles de l'extérieur comme de l'intérieur.
Je viens d'en découvrir que je n'avais pas encore vu. C'est arrivé là dans les dernières périodes de canicule qu'on a eues dans les semaines précédentes. Hein. Voilà, il y en a une qui part juste au-dessus de la fenêtre là.
Les premières sont apparues il y a 6 ans, quelques mois seulement, après que Solveig et son mari aient racheté la maison.
C'est angoissant, on l'a acheté pour terminer notre vie. Moi j'ai des petits-enfants, on a envie d'y être tous ensemble. Et ces fissures, c'est un petit peu une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête quand même.
Hein. La retraitée n'a pas les 150 000 euros nécessaires à la restauration. Elle espère donc une indemnisation de la part de son assurance, car l'état de catastrophe naturelle a été reconnu sur sa commune. Mais ce n'est pas le cas des 600 sinistrés qu'accompagne l'association Urgence Maison Fissurée. Dominique Goldstein, sa vice-présidente.
Entre sécheresse et pluie intense, bah les maisons elles bougent. Hein. Une chose dont on est sûr, c'est le dérèglement climatique. Malheureusement, ça ne va pas s'arrêter. Ceux qui ne le voient pas encore, ça va arriver cet automne.
L'association s'inquiète aussi de voir de nouvelles constructions autorisées sur des sols argileux. Autant de maisons qui, selon Dominique Goldstein, finiront elles aussi un jour par se fissurer.
11 millions de maisons à risque hein, de ces fissures dues à la chaleur, à la canicule, à répétition. Ça va coûter très très cher. Alors comment identifier si votre maison est à risque? Je poserai la question à notre invité après le journal. Et venez témoigner si vous êtes concerné. On vous attend au 32-16.
Des membres de cabinets ministériels ou des hauts fonctionnaires testés positifs à la drogue. Ils ont été écartés, annonce le Premier ministre Sébastien Lecornu ce matin dans un entretien au Paris Match.
Les réseaux sociaux interdits aux ados de moins de 15 ans, ce sera effectif à la rentrée.
Et c'est une première en Europe. Le Parlement a adopté hier cette proposition de loi. Sa mise en œuvre va se dérouler en deux étapes. Les comptes Facebook, TikTok ou encore Instagram existants seront concernés par cette interdiction dès le 1er janvier et dès la rentrée pour les nouveaux comptes. Une avancée majeur pour Emmanuel Macron, mais pour maître Yann Maël Larère, spécialiste du numérique, cela ne remplacera pas l'éducation aux réseaux sociaux.
On perd vraiment notre temps et notre énergie à vouloir systématiquement interdire tous les comportements qu'on considère comme nouveaux, déviants. Il y a quelques années, le problème, c'était les jeux vidéo. Avant encore, c'était la télévision. Et je sais pas comment vont faire les jeunes à 16 ans s'ils ont jamais approché un réseau social par le passé. C'est aussi une éducation progressive. Le sujet de base, c'est la responsabilité des parents. Et s'il y a une difficulté, c'est peut-être parce qu'on n'a pas traité ce sujet-là depuis trop longtemps.
Et le Parlement adopte définitivement la loi Riposte. Rêve illégal, rodéo urbain, protoxyde d'azote. Le gouvernement promet des réponses immédiates aux troubles à l'ordre public. Un texte salué par la majorité, vivement dénoncé par la gauche et les défenseurs des libertés.
Le Tour de France est le peloton qui s'interroge sur le message envoyé par les autorités antidopage.
Le maillot jaune, Pogacar et Vingegaard ont été ciblés par des contrôles antidopage nocturnes avant une nouvelle vague de tests. Lundi, une séquence Kevin Morand qui interpelle le peloton.
Oui, l'ITA, l'organisme indépendant en charge de l'antidopage dans le cyclisme, a déployé un gros dispositif lundi. Toutes les équipes ont reçu la visite en fin de journée de contrôleurs.
J'en ai eu un à 21h30. Pour l'anecdote, on était en train de jouer à la pétanque.
Baptiste Westrofer, coureur de la Loto Intermarché.
On a eu 3 contrôles aléatoires durant le tour. On doit être aussi conscient, voilà, qu'il faut avoir une éthique et faire tout pour rendre notre sport clean. Pour moi, c'est aucun problème.
Une vague de contrôle qui fait suite à ceux subis en pleine nuit par Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard le week-end dernier, autorisé par un juge des libertés de la détention sur cette plage horaire qu'en cas de soupçon grave et spécifique. Le consultant RMC Jérôme Pinault déplore la communication autour de ces contrôles.
En gros, on a contrôlé tout le monde, mais ces deux équipes-là sont suspectes. Donc dans la tête des gens qui sont sur le bord de la route, ces deux coureurs-là ont triché ou sont potentiellement des tricheurs. Et ça, c'est pas bon.
Marc Madio, le président de la Groupama FDJ United, s'interroge aussi.
Est-ce qu'il y avait vraiment des raisons concordantes qui font que, ou est-ce qu'on a voulu faire un exemple en disant, vous voyez, on est capable de contrôler même les meilleurs? Si c'est le cas, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas poussé le bouchon jusqu'à en contrôler une dizaine.
Les coureurs sont contrôlés à l'improviste au moins une fois par semaine sur le Tour de France et quotidiennement pour se présenter sur le podium.
Et victoire hier d'Evenepoel sur le contre-la-montre entre Evian Les Bains et Thonon Les Bains devant Pogacar. Le Français Paul Sexas termine 4e, place à la 17e étape entre Chambéry et Voiron aujourd'hui. Intégral Tour dès 14h sur RMC.
On termine avec le Quintet, c'est à Enghien aujourd'hui à 18h30.
Et le pronostic de la Dream Team, leur favori le 9, Montana Kaluma, leur outsider et le 10, Mercurdel.
C'était le journal de Clément Gouit, vous êtes bien sur RMC, il est 8h38. On retourne au 32-16, c'est l'INSEE qui est avec nous en direct. Bonjour l'INSEE.
Et bonjour.
Et bienvenue, l'INSEE, vous êtes dans le Gard.
C'est bien ça, exactement.
C'est l'interdiction aux réseaux sociaux qui vous fait réagir, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Votée hier au Parlement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne mesure?
Alors oui, c'est une très bonne mesure, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ce qui me paraît insensé, c'est qu'on soit obligé aujourd'hui de faire des lois, alors que c'est une éducation des parents à gérer leurs enfants sur les réseaux sociaux, sur les portables, sur tout ça, quoi.
Vous avez des enfants, vous, l'INSEE?
Eh oui. Bon, elles sont encore un peu péquelettes, mais bon, à 8 et 9 ans, ça commence déjà à me demander à accéder à tout ce qui est la technologie et tout ça, ce qui est normal.
Vous sentez déjà une forme de pression, d'intérêt? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà les petits camarades qui ont accès à des téléphones?
Ah ben alors, c'est ça le plus grave, c'est effectivement, il y a des enfants de leur âge qui ont déjà des téléphones, ce qui me paraît insensé parce que nous accompagnons nos parents, nos enfants à l'école. Enfin, je trouve pas que ce soit nécessaire qu'ils en aient besoin. Donc forcément, elles sont hyper demandeuses et je pense que c'est à moi de leur expliquer que pour l'instant, elles en ont pas essentiellement l'accès. Oui. Pour l'instant, c'est pas nécessaire essentiellement. Quoi. Voilà.
Pour vous, c'est d'abord la responsabilité des parents d'être conscients des risques.
Mais bien sûr. Et on le voit bien. Il y a une agressivité qui ressort après ces réseaux sociaux. Vous m'excuserez, mais voilà. On voit bien que les réseaux sociaux, c'est très mauvais pour eux. Ça influence dans le négatif. Et moi, je ne veux absolument pas qu'elles aient accès à ça pour l'instant. Alors, je ne veux pas les mettre dans une bulle non plus. Je veux leur expliquer les choses. Mais c'est à moi de gérer tout ça. Quoi. Voilà. Ouais.
Mais ça ne va pas aider, malgré tout, cette interdiction, ne serait-ce que pour envoyer un message aux parents qui pourraient être un peu plus flexibles que vous sur ces questions-là, un message aux parents, et puis plus facile peut-être de l'expliquer aux enfants. Est-ce que ça ne peut pas aider?
Alors, Si, je suis tout à fait d'accord, ça va les aider forcément, mais c'est quand même dommage d'être obligé de mettre des lois pour que les parents comprennent que c'est dangereux pour eux, quoi. Voilà. Et là, ce matin, la dame disait que c'était aux enseignants de l'école d'expliquer aux enfants que les réseaux sociaux étaient dangereux. Non, je suis désolée, c'est aux parents de faire leur boulot, quoi.
Aux parents, et voilà, elle nous disait surtout, elle disait un peu comme vous, que c'est surtout une question d'éducation, éducation des enfants, mais éducation aussi des parents aux risques posés par les écrans pour les plus jeunes et des réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre appel, l'INSEE 3216, si ça vous fait réagir, le débat continue. Les 8h40 sur RMC, dans un instant, on va retourner dans la forêt de Fontainebleau, deux semaines après cet incendie gigantesque. Les pompiers sont toujours à l'œuvre pour surveiller et éteindre d'éventuelles reprises. Un incendie qui a déjà des conséquences sur la saison touristique là-bas, vous l'imaginez, ce sera le choix de la rédaction. Et puis les maisons qui fissurent avec la canicule, c'est une autre conséquence de la sécheresse. Ça concerne désormais une maison sur deux. On en parle avec notre invité, puis vous pouvez témoigner là aussi au 32-16. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h43 et vous êtes sur RMC et RMC Story. C'est l'heure du choix de la rédaction. Aujourd'hui, nous retournons en forêt de Fontainebleau, deux semaines après le terrible incendie qui a ravagé la forêt. Les pompiers sont toujours présents. Ils surveillent et éteignent les éventuelles reprises de feu. Bonjour Alexandre Thibault. Vous êtes retourné sur place. L'incendie a démarré il y a deux semaines, a brûlé plus de 2000 hectares. C'est 10% de la surface du massif. Et même s'il n'est toujours pas éteint, cet incendie a déjà des conséquences sur le tourisme dans cette forêt de Fontainebleau, qui habituellement accueille 15 à 20 millions de visiteurs par an. Les professionnels de la région déplorent déjà un gros manque à gagner.
Oui, la salle du restaurant de Corinne Soyer est bien vide.
C'est un drame, on a personne.
Cette saison, elle est vraiment morte là. On va travailler, mais un tout petit peu.
Son établissement porte bien son nom, La Forêt, située sur la départementale qui traverse les arbres. Les flammes se sont arrêtées à 900 mètres de sa terrasse. Il y a encore une odeur de fumée. La gérante a renoncé à embaucher des saisonniers pour l'été.
Normalement, je dirais, j'ai du personnel pour faire la terrasse. Mais là, c'est pas la peine, j'irai personne. J'aurai pas de touristes, ma saison est fichue, donc voilà, pas plus de 4.
Pas plus de 4 employés, mais heureusement, un peu de solidarité. Une dizaine de clients sont venus manger chez elle. Un soutien moral, mais pas financier. Il va bien falloir faire les comptes.
J'ai pas calculé et je veux pas le calculer tout de suite, je pense. Voilà. Il va falloir sortir à peu près 10 000 euros et on n'a pas de rentrée d'argent. Mais si j'avais pas de trésorerie, je pense que je pourrais fermer là.
Alors, en temps normal, après avoir mangé, on peut aussi faire du vélo dans la forêt de Fontainebleau. Activité également à l'arrêt pour Christophe Hirtzel, qui en loue depuis 6 mois.
Sur une journée complète, on loue une trentaine de vélos. Ce week-end, on a loué peut-être 6 vélos. On a eu le droit à tout, quoi. Les intempéries, les feux de forêt.
Il cherche de nouveaux itinéraires à proposer à ses clients. Clients qui sont pour la majorité des touristes et des grimpeurs.
Les grimpeurs, justement, on sait la forêt de Fontainebleau, réputée pour l'escalade, sauf qu'elle est totalement fermée hein, pour le moment, donc leur activité est aussi à l'arrêt, j'imagine.
Oui, pour tous, grimpeurs et aussi moniteurs. Nicolas Grière est l'un d'eux depuis 20 ans.
Donc là, pour l'instant, on est au chômage technique sur cette partie. Ouais.
Les mousquetons et baudriers restent rangés dans les caisses de son garage. Le mois de juillet aurait dû être le plus rentable de l'année, mais pour lui, l'enjeu est ailleurs.
Pour l'instant, le plus important, ça manque la forêt, de prendre soin de la forêt, mettre en place les moyens et sauver notre terrain de jeu. Sans terrain de jeu, on n'a plus rien. Ici, il faut que notre activité soit en stand-by pendant 2 mois. Elle sera en stand-by pendant 2 mois et je pense que c'est mieux. Et faire en sorte que ça n'arrive plus. Parce que si tous les ans, on perd 10%, dans 10 ans, il ne reste plus grand-chose.
Éviter de nouveaux incendies alors que déjà la moitié des réservations de location d'hébergement ont été annulées pour le mois de juillet. Chiffre de l'Office du tourisme du pays de Fontainebleau. Son président Laurent Roussel a un mot d'ordre.
C'est le moment de venir découvrir que le pays de Fontainebleau, ça n'est pas que la forêt. C'est un magnifique château. Un patrimoine historique, on a énormément de belles maisons, de très belles églises qui sont millénaires. Il y a plein d'autres choses à faire à Fontainebleau. Et dès que ce sera possible, on réouvrira la forêt.
Réouverture partielle prévue pour le moment ce dimanche.
Le reportage en forêt de Fontainebleau d'Alexandre Thibault. Dans un instant, sur RMC, on parle d'une autre des conséquences de cette chaleur et de ces canicules à répétition, et notamment en conséquence de la sécheresse. Ce sont les maisons qui fissurent, une maison sur deux concernée. Comment prévenir le risque? Est-ce qu'on peut être assuré pour ça? Un expert pour nous répondre dans un instant, c'est Laurent Arnaud, il est responsable technique du domaine du bâtiment au CEREMA. C'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et la aménagement. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
8h48 sur RMC et RMC Story. Ce sont des millions de maisons qui sont menacées et peut-être la vôtre avec les canicules qui se répètent et cette sécheresse record. Les maisons fissurent. Cette menace concerne désormais une maison sur deux. C'est colossal. Ça fait 11 millions de maisons. Bonjour Laurent Arnaud.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous et merci d'être en direct avec nous. Vous êtes responsable technique du domaine du bâtiment au CEREMA. C'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité, l'aménagement. Vous êtes donc expert de ce type de risque. Comment on explique d'abord très simplement à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce phénomène de fissure ?
Ben, c'est un phénomène qui existe et qui est lié effectivement à la sécheresse. Il faut imaginer que les couches d'argile que l'on a sous les maisons sont en fait des feuillets et au milieu de ces feuillets, il y a de l'eau. Et avec un temps de sécheresse, l'eau s'évapore et en fait, les feuillets vont se rapprocher et le terrain va tasser. Et quand il y a des tassements différentiels sous une maison, ben, ça peut créer des contraintes à l'intérieur de la structure et une fissure dans la maison. Comme vous l'avez dit, plus de la moitié des maisons individuelles et des bâtiments sont faiblement, enfin, ou modérément ou fortement exposés au risque RGA, mais toutes n'ont pas les mêmes fondations. Et donc, il faut croiser l'exposition que l'on a liée au temps avec les fondations des maisons pour savoir si on est très concerné ou modérément concerné.
RGA, c'est ce qu'on appelle le retrait gonflement des argiles. Ce sont ces fissures dont on parle. Si on ne fait rien, ça peut être fatal pour la maison ?
Oui, oui, il y a certaines maisons pour lesquelles on va jusqu'à la ruine, effectivement, de l'ouvrage. Mais il existe des solutions pour limiter ce risque-là, bien entendu.
Alors, comment on fait pour savoir si sa maison est concernée ? Et si on est concerné, quels sont vos conseils ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il y a des manières de prévenir ce risque ?
Alors, la première chose à faire, c'est effectivement d'observer sa maison et dès l'apparition d'une première fissure, effectivement, de réagir et de ne rien faire, bien entendu. Alors, l'action, elle est à plusieurs niveaux. Allez voir sur le site d'exposition au risque, le BRGM, qui est un établissement public, émet une carte de prévention pour montrer si on est dans une zone qui est modérément ou fortement exposée. Donc là, vous arrivez à vous localiser. Ensuite, si vous êtes dans une zone comme ça, il faut arriver à gérer l'eau. L'eau notamment de pluie. On sait très bien que toutes les maisons ne sont pas équipées d'écoulement centralisé pour récupérer les eaux de pluie, ça c'est un premier point. Il faut s'intéresser à l'étanchéité de son réseau d'eau usée pour savoir s'il n'y a pas de fuite, parce que ce sont des phénomènes qui peuvent créer la disparité entre le teneur en eau dans le sol. Donc ça, ce sont des réactions simples que l'on peut mettre en œuvre pour éviter ou pour limiter les conséquences du RGA.
Il y a des premiers signes qui doivent nous alerter.
Les premiers signes, c'est la fissuration. Vous voyez apparaître des fissurations dans vos murs. Au départ, la fissure, elle est extrêmement fine. C'est de l'ordre du dixième de millimètre. Et si vous ne faites rien, ça peut aller jusqu'à plusieurs centimètres. Et c'est la raison pour laquelle il faut à la fois faire l'analyse et mener des actions de limitation des conséquences, voire de prévention si vous savez que vous êtes fortement exposé.
Alors restez avec nous Laurent Arnaud, on va aller au 32-16. C'est Norberto qui nous a appelé, vous êtes dans les Deux-Sèvres. Norberto, vous êtes concerné chez vous par ce risque de fissure ? Est-ce que Norberto est avec nous ? Oui ?
Oui, allô ?
Oui, vous nous entendez ?
Allô ?
Vous êtes avec nous Norberto depuis les Deux-Sèvres. Est-ce que vous êtes concerné chez vous par ce risque de fissure ?
Moi non, mais il y a des maisons ici, oui.
Ouais. Vous l'avez observé, il y a des fissures chez vos voisins dans le quartier ?
Dans le quartier, non, parce que j'habitais
Je crois qu'on manque un peu de réseau, malheureusement. Norberto, c'est en train de couper. On va essayer de rétablir la liaison. Je reviens vers vous, Laurent Arnaud. Est-ce qu'on peut s'assurer contre ce risque ?
Alors oui, il y a une assurance, bien entendu, mais l'augmentation est extrêmement forte ces dernières années du coût lié au RG1. Le point de bascule qui est donné par la Caisse centrale de réassurance, qui est 2015, indique qu'on a une augmentation très très forte, et aujourd'hui, les risques RG1 est le premier risque en termes de coût d'indemnisation des sinistres. Et ils évaluent à 1,5 milliard par an les coûts pour les 5 prochaines années pour ce risque-là.
Donc ça va être colossal. Est-ce qu'il y a des aides pour ceux qui ne sont pas assurés, qui doivent faire des travaux? On voit que les coûts sont très importants. Est-ce qu'on a pris la mesure du problème? Est-ce que l'État aide ce type de travaux?
Alors, l'État a mène un grand programme, et le CEREMA accompagne ce programme pour améliorer le diagnostic et savoir quelles sont les maisons qui vont être impactées les premières. Donc, c'est un dispositif d'aide à la prévention du phénomène. Et donc là, vous pouvez vous rapprocher des DDT et des DREAL pour vous inscrire dans cette démarche si vous le souhaitez. Et puis, il y a 11 départements qui sont des départements test, et il y a vocation à aller plus loin. D'un autre côté, je prends notre exemple à nous, le CEREMA, nous travaillons en partenariat avec Covéa, qui sont des assureurs, pour instrumenter un certain nombre de maisons à l'aide d'un dispositif qui a été mis au point par le CEREMA, qui s'appelle MAC, Maison Confortée par Humidification, pour limiter les nuisances quand maison commence à se fissurer.
Merci beaucoup, Laurent Arnaud. On va inviter les auditeurs à consulter votre site éventuellement pour avoir toutes ces infos. Une maison sur deux potentiellement concernée par ce risque de fissure. Merci beaucoup, Laurent Arnaud, responsable technique au CEREMA. C'est l'heure des GG, des grandes gueules, dans un instant avec Olivier Truchot. Bonjour, Olivier.
Salut, Sébastien. Bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent à débattre de l'actualité. On va revenir sur ce qu'on a appris, l'exfiltration de ce maire, le maire d'Alès, parce qu'il est menacé par les narcotrafiquants. On vient de franchir une nouvelle étape dans la guerre que mène notamment la DZ Mafia. Alors là, c'est la DZ Mafia nouvelle génération contre l'État et contre la puissance publique. Est-ce que c'est une guerre qu'on est en train de perdre? C'est la question qu'on posera aux grandes gueules, qu'on vous pose au 32-16. Appelez-nous dès 9h sur RMC, RMC Story. On vous attend.
Les grandes gueules, c'est juste après le journal de 9h sur RMC et RMC Story. Bonne journée.